Vous allez écouter la chronique Quartier Libre, réalisée en partenariat avec l'État, le Conseil départemental de Vaucluse, la communauté d'agglomération Ventoux-Cantaven-Essin et la ville de Carpentras. Monsieur Philippe Brunet-Debène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Vallis Habitat et nous allons parler aujourd'hui un petit peu de la réhabilitation du Pou du Plan. Pourquoi avoir lancé une intervention d'envergure pour réhabiliter cette cité de Carpentras? Et est-ce qu'on peut rappeler aussi peut-être l'année de construction?
Oui, bien entendu. Alors, si vous me le permettez, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais apporter une petite précision, c'est que le nom du bailleur social Vallis Habitat ne parlera pas forcément à tout le monde, puisque Vallis Habitat est un nom, un nouveau nom, hein. On a changé de nom au 1er octobre de cette année 2020, puisque Vallis Habitat est le nouveau nom de l'office départemental, l'office public de l'habitat de Vaucluse, qui est né de la fusion entre Mistra Habitat, qui était déjà l'opérateur public départemental, et Grand Avignon Résidence, qui était lui l'opérateur public du Grand Avignon. Et cette fusion donc a généré évidemment de gros changements et ce changement de nom depuis le 1er octobre. Je voulais simplement
apporter
cette précision parce que Vallis Habitat ne parle pas encore évidemment à tous nos locataires et à tout le monde dans le territoire vauclusien. Cette précision faite, je vais en revenir à votre question initiale. Le Pou du Plan est une des grandes résidences gérées par l'opérateur public donc sur ce territoire et date de 1969. Donc évidemment, ça fait partie des grands ensembles construits en zone urbaine dans les années 70-80. Hein. C'est une grosse partie du parc en zone urbaine et périurbaine. Mais on a aussi beaucoup développé depuis, et notamment ces dernières années, une production en zone rurale avec de petites opérations. Et donc, on couvre aujourd'hui les besoins du territoire, à la fois en zone urbaine et périurbaine, mais aussi en zone rurale. Alors, pourquoi réhabiliter cette importante réalisation, puisque la résidence du Pou du Plan est une résidence importante, hein, qui compte 432 logements. Donc c'est une résidence dense qui est en même temps plutôt bien située à Carpentras dans un périmètre urbanistique qui lui est moins dense. Donc c'est une résidence qui présente aussi certains aspects intéressants en termes de positionnement géographique. Pour autant, comme toutes ces résidences construites dans les années 70-80, ce sont des résidences qui ont été, il faut le dire, et je n'ai pas peur d'affirmer, insuffisamment entretenues pendant toutes ces années et qui arrivaient aujourd'hui, et depuis plusieurs années malheureusement, à un vrai besoin de réhabilitation. D'autant plus que vous le savez, aujourd'hui, l'époque veut qu'on s'intéresse aussi aux aspects environnementaux, à la performance énergétique des bâtiments. Et cette réhabilitation de grande ampleur va nous permettre aussi de travailler sur la performance énergétique des bâtiments, ce qui évidemment aujourd'hui est très important. Alors, comme il s'agit d'une réhabilitation de grande ampleur, nous sommes obligés de la phaser, hein, et nous avons décidé donc de la phaser en deux tranches principales.
Première tranche de 18 mois, c'est ça ? Il y a eu une première tranche de 18 mois ?
Oui, c'est ça. Il y a eu une première tranche qui portait sur 153 logements, et plus précisément les bâtiments G, D et H. On a fait d'ailleurs, parce que, il faut le dire, hein, c'était une résidence dont on parlait, à propos de laquelle on parlait d'une réhabilitation depuis de nombreuses années. Et à mon arrivée en 2016 à la direction générale à l'époque de Mistra Habitat, c'était un projet qui malheureusement n'avançait pas suffisamment, donc on a mis vraiment un coup de projecteur là-dessus et on a souhaité démarrer des travaux par anticipation qui portaient essentiellement sur les menuiseries extérieures et sur la VMC qui ont été réalisées en 2019. On a démarré véritablement la préparation du chantier en juin 2019 pour une durée de 2 mois. Et le démarrage des travaux s'est fait en septembre pour une durée de 18 mois. Donc la fin de la première tranche, la livraison est prévue en courant 2021, a priori en mars, même s'il faudra mesurer l'impact de la crise sanitaire sur les délais éventuels de livraison des opérations de réhabilitation. C'est pas propre à Carpentras.
Quel est le coût peut-être final, estimé en tout cas pour cette réhabilitation?
Alors déjà, bon, y a cette première tranche donc de 153 logements et on a la tranche numéro 2 qui, elle, porte sur 279 logements, c'est-à-dire les bâtiments A, B, C et F. Là, on est aussi dans un cadre de travaux par anticipation avec les menuiseries extérieures et la VMC Com pour la première tranche, avec l'heure de service en juillet 2019 pour une durée de 15 mois. La réception s'est faite en juin de cette année et se fera courant de ce mois-ci pour la VMC. Et on est là sur un démarrage de la concertation locative là dans les jours qui viennent. On va présenter, on a présenté tout cela aux locataires et on va enchaîner donc avec les travaux. Alors vous me parliez du coût. On est sur une opération, la première tranche de 8,25 millions d'euros et sur l'autre de 13,44 millions. Donc ce sont des réhabilitations extrêmement lourdes, hein, avec des financements en fonds propres de Mistra Habitat, mais aussi des aides du département, de la région, et puis un gros volet, hein, le volet essentiel, puisque ça représente à peu près 90% du financement, ce sont des emprunts réalisés par le bailleur, par nous, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc on voit que c'est un effort très important pour le bailleur, mais qui s'inscrit, et ça revient à votre question initiale, dans la logique générale, de réhabiliter notre patrimoine, de faire un gros effort sur les rénovations, la requalification. On investit non seulement dans des grosses réhabilitations, ici à Carpentras, mais aussi dans d'autres parties du territoire vauclusien, comme à Cavaillon ou à Avignon. Surtout que, vous le savez, il y a une volonté du gouvernement au travers de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain d'encourager ces opérations de dédensification, de requalification dans les grands ensembles urbains. Et on est le seul bailleur du territoire qui est concerné par toutes les opérations de renouvellement urbain du Vaucluse, c'est-à-dire à Avignon, Cavaillon et à Orange. Et à Carpentras, historiquement, la ville ne s'est pas inscrite dans ce cadre de renouvellement urbain financé par l'ANRU. Et donc, on agit ici en ce qu'on appelle en droit commun, c'est-à-dire hors renouvellement urbain. Mais on a souhaité ne pas se focaliser uniquement sur les opérations de renouvellement urbain, mais aussi réhabiliter nos résidences situées hors du périmètre renouvellement urbain. C'est le cas à Carpentras, mais c'est le cas aussi dans d'autres communes, hein. C'est le cas à Sorgues, par exemple. À Orange, on a une seule résidence qui s'inscrit dans un cadre de renouvellement urbain, c'est la résidence de l'Aigle, mais il y a d'autres résidences, comme par exemple le Taciturne ou la Tour, qui font l'objet d'une réhabilitation sur le même mode de financement que celui de Carpentras. Voilà.
Monsieur Philippe Brunet-Deubaine, peut-être une autre question. Comment les habitants ont-ils accueilli un petit peu cette rénovation quand ils ont entendu dire que vous alliez rénover un petit peu le pot du plan? Je pense que ça a été bien accueilli, mais ensuite, pour cette rénovation qui est en cours, quels sont les retours que vous avez actuellement?
Alors, déjà, premier point, ils l'ont évidemment bien accueilli, mais ils l'ont accueilli avec aussi le sentiment d'avoir trop attendu, et je ne peux que confirmer ce sentiment. Ils ont en effet trop attendu. Je pense que le tort qu'ont eu qu'ont les bailleurs en général, c'est de lancer les opérations en termes de communication et avec un délai souvent qui est trop long entre les premières annonces et le démarrage effectif des travaux. Et ça, c'est très négatif parce qu'au final, les habitants, bien légitimement, ont le sentiment qu'on en parle, et puis que rien ne vient. Donc, premier point, ils étaient, je pense, contents de voir que enfin, on ne faisait pas que parler de la réhabilitation, mais que ça en entrait dans une phase de travaux, une phase active. Et ça a été, je pense, un vrai soulagement, même s'il y avait une frustration liée à la durée de l'attente, bien entendu. Donc, première réaction plutôt positive, surtout que. Bon, moi qui suis assez régulièrement le chantier pour évidemment me rendre compte de l'état d'avancement, bon, y a vraiment un vrai plus, à la fois en termes d'aspect extérieur. Le travail qui a été réalisé par les architectes de ce point de vue-là est très positif, et aussi à l'intérieur des logements. On a fait d'ailleurs un logement témoin qui a permis aux locataires de se rendre compte de l'évolution réalisée. Et puis, évidemment, tout cela a été fait dans le cadre d'un travail de concertation locative, comme la loi l'impose pour ces réhabilitations, puisque ces réhabilitations, pour permettre leur financement, en général, s'accompagnent d'une hausse très, très modérée de loyer, mais en contrepartie d'une baisse assez sensible des charges liées à l'augmentation de la performance énergétique des bâtiments. Donc tout cela fait l'objet de la concertation locative, c'est présenté aux locataires et globalement les réactions ont été donc très positives. Alors évidemment, chaque fois qu'on parle d'une réhabilitation comme celle-là, on parle d'une réhabilitation en milieu occupé, c'est-à-dire que les locataires continuent à occuper les logements qui font l'objet de la réhabilitation, ce qui rend les choses plus complexes, ce qui peut quelquefois les rendre aussi plus difficiles. Mais je remercie vraiment les locataires qui ont joué le jeu, hein, qui ont accepté le principe de cette réhabilitation en milieu occupé, il n'y a pas d'autre solution, et qui aident vraiment les entreprises. Alors c'est fait avec des entreprises qui sont habituées à travailler en milieu occupé, bien entendu, et qui essayent de limiter au maximum les contraintes pour les locataires, mais c'est quand même difficile à réaliser, et il faut remercier l'ensemble des interlocuteurs, que ce soit les locataires ou les entreprises qui ont vraiment joué le jeu. Voilà, après, on a le retour d'expérience des autres opérations de réhabilitation. Pendant l'année qui suit la livraison de la réhabilitation, il y a toujours évidemment des ajustements à faire. Et donc, on reste toujours prudent sur les réactions des locataires et on restera à leur côté.
Et alors, écoute.
Pour traiter ces réclamations. Mais.
Monsieur,
pour l'instant, c'est plutôt positif.
Finalement. C'est plutôt positif. Et bien, en tout cas, on souhaite que ça continue. Monsieur Philippe Brunet-Deben, on va passer sur un autre sujet maintenant concernant le déménagement de l'agence, donc Mistral Habitat, donc, qui, on l'a bien compris, maintenant s'appelle Valis Habitat, donc depuis le 1er octobre. Pourquoi avoir fait peut-être ce déménagement?
Alors, pour une raison simple, c'est que lorsque je suis arrivé à la direction de Mistral Habitat à l'époque, on s'est aperçu que les conditions de travail de nos collaborateurs en agence et les conditions d'accueil aussi de nos locataires dans ces agences n'étaient pas optimum. On avait choisi, c'était un choix stratégique à l'époque, de privilégier l'implantation de nos agences en pied d'immeuble au sein de nos résidences, pour des raisons aussi de coût, il faut le dire. Mais du coup, avec l'évolution de notre parc, de la demande, de notre positionnement géographique. Il faut savoir qu'on est présent et on a du patrimoine dans plus de 80 communes aujourd'hui, hein, sur un total de 16 500 logements à peu près. Il était important de faire évoluer la qualité aussi de travail de nos collaborateurs et d'accueil de nos locataires. Et donc on s'est lancé dans un plan de réaménagement de nos agences. Ça a commencé par Avignon, qui avait déménagé du quartier Saint-Chamond, historiquement installé à Avignon, vers une agence anciennement Pôle emploi au Pontet, dans un bâtiment qui nous appartient et qui offre des conditions de travail et d'accueil de nos locataires très satisfaisantes. On a enchaîné avec cette agence de Carpentras. On le fait également à Cavaillon. Hein. À Cavaillon, on quitte la résidence du docteur Heil pour s'installer juste avant à l'entrée sud de la ville. Et on va le faire également à Orange. Donc voilà, c'est un plan stratégique que nous avons mis en œuvre et qui vise à améliorer, encore une fois, considérablement la qualité de nos agences pour en faire des espaces confortables et accueillants pour nos locataires. Donc le choix a été fait de chercher autour de l'agence en privilégiant Carpentras. On n'a pas trouvé malheureusement de solution satisfaisante à Carpentras même. Et comme on avait livré une résidence à Monteux avec des pieds d'immeuble tout à fait adaptés à la création d'une agence de proximité, nous avons privilégié cette solution. Évidemment, on reviendra peut-être un jour à Carpentras si on trouve des locaux parfaitement adaptés. Ce n'est pas forcément un choix qui va rester
définitif.
Définitif, mais force est de constater que à Monteux aussi, on a de bonnes conditions d'accueil de nos locataires. Et puis, il faut savoir aussi que à Carpentras, on était présent au bout du plan, mais n'oublions pas qu'on a aussi d'autres résidences, notamment les Amandiers. On a aussi du patrimoine en cœur de ville. Et donc, le choix qui a été fait, c'est aussi de pouvoir accueillir nos locataires de toute la zone au sein de notre agence. Voilà. On a un peu la même stratégie, si vous voulez, que les banques. Vous avez remarqué que les banques quittent souvent les centres-villes où elles étaient historiquement implantées pour se positionner sur des lieux qui sont facilement accessibles, où il y a du parking, des espaces de stationnement et où on peut mieux accueillir nos clients, en l'occurrence nous, nos locataires.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de ne plus être au plus près des habitants? C'est pas ce risque finalement que vous avez de vous écarter un petit peu de du pouls du plan par exemple?
Alors en effet, vous avez raison, c'est un vrai risque pour les bailleurs sociaux et souvent, force est de constater que les bailleurs sociaux sociaux sont les seuls services publics de proximité qui restent dans ces quartiers prioritaires de la ville, dans ces zones urbaines denses dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il est très important que nous continuions à être présents. En effet, c'est un impératif. Nous le sommes grâce au travail de nos agents de proximité, grâce au travail aussi de nos gestionnaires de patrimoine qui sont évidemment au quotidien aux côtés de nos locataires dans les résidences pour le traitement des réclamations locataires. Mais nous travaillons aussi cette question en lien avec les collectivités territoriales, que ce soit les intercos ou les mairies, les centres sociaux de ces structures intercommunales ou les mairies, et aussi le monde associatif, hein, qui est très présent souvent dans les quartiers et qui joue un rôle majeur. Donc nous prévoyons de manière systématique, et ce sera le cas à Carpentras, on est en discussion en ce moment avec les responsables des collectivités, notamment ceux de la mairie, pour trouver une solution pérenne de présence physique, soit de service public, soit de responsable associatif, pour marquer notre présence, évidemment, et continuer à marquer notre présence forte dans le quartier, directement ou indirectement, grâce au travail de ces structures. J'ajoute que nous avons quand même en permanence des agents qui vont continuer à utiliser nos locaux. Pas seulement d'ailleurs les anciens locaux de l'agence, mais aussi les loges que nous avons. Et donc, il est hors de question, bien entendu, que le bailleur quitte le quartier. Ce n'est pas du tout l'objet de ce choix stratégique. C'est simplement d'avoir des agences qui sont, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai insisté, beaucoup plus accueillantes et qui offrent des conditions de travail aussi satisfaisantes à nos collaborateurs, mais en maintenant cette présence sur le terrain qui est fondamentale.
Et est-ce que vous auriez les horaires peut-être des permanences dans les quartiers du Pou-du-Plan et des Amandiers avec
Alors en fait, c'est vraiment un travail qui est effectué par nos gestionnaires de patrimoine et nos agents de proximité, à la fois sur les tâches d'entretien, hein, avec le travail sur les encombrants, sur la propreté. On doit définir d'ailleurs, de ce point de vue-là, redéfinir la convention d'entretien avec les collectivités. Parce qu'on a aujourd'hui des aménagements à faire sur les espaces extérieurs. On doit mieux répartir aussi les propriétés et la domanialité de ces espaces extérieurs autour de nos résidences. Donc c'est un travail qui est fait en lien avec les collectivités et on a très bonne relation avec la mairie de Carpentras dans ce cadre-là. Et puis on a nos gestionnaires de patrimoine, donc c'est plutôt le principe d'une prise de rendez-vous. Il n'y a pas véritablement de permanence dans le quartier, simplement il y a des contacts réguliers via l'agence et notre service relations clients pour prendre des rendez-vous et pour être présents. Ceux qui sont aussi au quotidien sur le site, ce sont nos agents de proximité, encore une fois.
On va finir cette interview, monsieur Philippe Brunet-Deben. Je rappelle que vous êtes directeur général de Valis Habitat, par donc la nouvelle adresse de cette agence que l'on peut retrouver, donc si on a bien compris, sur Monteux.
Voilà, c'est à Monteux, c'est au sein de la résidence le Saphir. J'invite l'ensemble des parties prenantes et de nos locataires à ne pas hésiter à consulter notre site internet où vous avez toutes les informations et l'adresse précise. C'est très facile à trouver, c'est en plein cœur de Monteux, cette agence, et elle gère donc tout le patrimoine situé dans le comtat vénessin, autour de Carpentras, de Monteux, avec donc ces résidences historiques que j'ai citées, le Pou-du-Plan qui fait l'objet de la réhabilitation, les Amandiers qui seront également réhabilités par la suite, et puis notre patrimoine présent aussi dans tout ce secteur géographique du comtat vénessin.
Merci beaucoup, donc Monsieur Philippe Brunet-Deben, directeur général de Valis Habitat et anciennement donc Mistral Habitat. Merci beaucoup pour cette interview.
Merci à vous, à bientôt.
RTVFM.